Previously.
Il binge-watchait déjà avant que ce soit cool. Alain Carazé revient pour vous sur des séries cultes. Au menu aujourd'hui, Miami Vice.
Retrouvez-moi tous les mercredis dans Previously, le podcast de Télé-Loisirs, pour plonger dans une série phare que non seulement je vous raconte, mais dont je vous livre aussi des coulisses. Et pour cette édition, je vous propose, pour vous replonger dans l'ambiance Miami Vice, ou les deux flics à Miami, comme on les appelait en France, un retour vers le passé, dans le milieu des années 80, aux États-Unis. Alors, oui, je sais, vous allez me dire, ouais, mais moi j'étais pas né, et alors? Les séries de cette époque, il y avait d'un côté les prestigieuses soaps de soirée comme Dallas, Dynasty, Falcon Crest et Côte Ouest, et puis de l'autre, il y avait les séries policières très traditionnelles comme Hooker, Arabesque, L'Homme qui tombe à pic, Simon et Simon. Et enfin, au bout du bout, il y avait des séries de pur divertissement. Accrochez-vous, La Croisière s'amuse, Hôtel, Cours après moi, Shérif, L'Île fantastique. Bon, on est clairement dans le cadre de programmes qui séduisent un public un peu âgé, alors que les autres réseaux se multiplient, et que les chaînes du câble séduisent des téléspectateurs plus jeunes, et plus importants aux yeux des publicitaires. On est à l'époque où explosent les vidéoclips, sacralisés par la chaîne MTV, qui séduisent les 18-49 ans. Le besoin de faire revenir ce public-là, sur des chaînes comme NBC par exemple, s'avère de plus en plus crucial. Et petite parenthèse, c'est un peu ce qui se passe en ce moment, avec les différentes plateformes SVOD de type Netflix, face aux chaînes dites linéaires. Il y avait déjà eu une évolution scénaristique, avec par exemple des séries comme E Street Blues, mais pas encore de révolution visuelle. L'image est lumineuse, pour passer sur toutes les télés, quelle que soit la qualité de réception. On tourne avec les plans moyens, gros plans, champ, contre-champ. Le budget alloué à une série ne permettait pas de faire autre chose. Et puis, il n'y avait pas beaucoup de lumière, il n'y avait pas beaucoup de mouvements de caméra, il n'y avait pas beaucoup de plans complexes. Bref, tout ça était quand même très formaté. Tout juste si, pour les scènes d'action, on avait imposé la reflex. Alors la reflex, je vous explique, c'est une caméra à la main, plus maniable, et donc avec laquelle on pouvait faire des images plus dynamiques. Et c'est des agents très spéciaux, la série de 1965, qui a imposé cela. Ouais, 1965, parce que depuis... Ben rien, quoi. Voilà. Arrive Brandon Tartikoff. Bon, c'est un nom qui ne vous dit rien, mais pour les spectateurs américains de cette époque, c'est le synonyme d'un vent d'air très très frais sur les programmes télé. Tartikoff, diplômé de Yale, a 30 ans. Il prend la direction des divertissements de la chaîne NBC, avec la tâche de renouveler la chaîne de fond en comble. Et c'est ce qu'il va faire. Il va poursuivre Bill Cosby et le supplier de faire le pilote d'une sitcom. Ça donnera le Cosby Show. Il donnera sa chance à Une voiture qui parle, parce qu'il manquait de bons acteurs qui pouvaient être la vedette de K2000. C'est authentique, hein. Il a lancé Family Ties, Sacrée Famille, la sitcom qui a révélé au monde Michael J. Fox. Il a conservé à l'antenne plusieurs saisons durant la comédie innovante de Jerry Seinfeld, jusqu'à ce que Seinfeld devienne un phénomène national et une sitcom de référence. Ted Danson lui doit aussi sa carrière, grâce à Cheers, et il a lâché sur notre Terre un extraterrestre bouffeur de chats, Alf. Bon, plus sérieusement, il a travaillé auprès de Steven Bochco pour faire de E Street Blues, puis de La Loi de Los Angeles, des séries de référence pour les décennies à venir. Il lui restait à changer de fond en comble la série policière. Pour cela, il en a profité pour viser le public jeune, des 20-40 ans, grosso modo, qui désertait donc jusqu'à là sa chaîne pour des réseaux bien plus modernes sur le câble. L'idée lui est alors venue de faire des flics, mais à la sauce MTV. MTV Cops, deux petits mots qu'il griffonne sur un papier comme ça et qui, par la suite, vont entrer dans la légende. Au même moment, un scénariste fait ce qu'il fait de mieux, il écrit un scénario et il le livre. Le scénario s'appelle Gold Coast. C'est un téléfilm policier qui se déroule à Miami. Et l'auteur s'appelle Anthony Yerkovitch. Ce n'est pas un nouveau venu. Il a déjà écrit pour des séries télé, entre autres Starsky et Hutch. Et il a été surtout un des membres les plus importants de l'équipe de E Street Blues, la fameuse série La Capitaine Furio dont je viens de vous parler. D'ailleurs, si un jour l'occasion m'en est donnée, je vous raconterai l'histoire incroyable de cette série policière hors norme qui a changé de fond en comble le paysage télé. Mais ce moment n'est pas encore venu. Simplement, d'avoir été une des chevilles ouvrières de E Street Blues, ça vous ouvre des portes. Et ça incite les gens à prêter plus d'attention à vos projets. Gold Coast, part d'un point de droit dans l'histoire de la police. La possibilité pour les forces de police d'utiliser tout ce qu'ils ont confisqué à des bandits, du genre vendeurs de drogue, une fois que ceux-ci sont tombés. Quand je dis confisqué, je parle par exemple des gadgets de luxe, des bagnoles, des hors-bord, des yachts, etc., etc. Le téléfilm de Yerkovitch montre donc deux flics qui utilisent tous ces éléments pour s'infiltrer auprès des dealers de drogue et remonter la filière. La compagnie de production Universal qui fait une immense partie des séries américaines qui étaient en diffusion à l'époque, elle avait commandé ce script, elle comptait bien le proposer à la chaîne de télévision NBC. Elle va donc avoir l'idée d'y associer un réalisateur qui pourrait en faire autre chose qu'une série policière traditionnelle comme ils en débitent des kilos. Pas un nouveau Kojak ou pas un nouveau Starsky Hutch, justement. L'homme en question a pour nom Michael Mann. Ouais, on parle bien du même Michael Mann. Celui qui, à l'époque, avait réalisé les films Le Solitaire et La Forteresse Noire. Il avait développé un style visuel qui lui était propre. Celui qui, depuis, a fait Heat, Ali et Manhunter. Mais qu'est-ce qu'un type de cinéma peut bien faire dans une série? Alors là, je vous arrête tout de suite. C'est quoi ces a priori? Vous croyez que les réalisateurs de cinéma qui travaillent pour la télé, c'est tout récent? Sans rire? Qu'avant Martin Scorsese et David Lynch, aucun grand nom du grand écran ne descendait sur le petit pour la télévision américaine? Non mais alors, dans ce cas-là, hein, si je vous écoute là, on va dire qu'Alfred Hitchcock, John Cassavetes, Robert Altman, Richard Donner, Bob Zemeckis, Oliver Stone, Francis Ford Coppola, Barry Levinson, Joe Dante, Claude Chabrol et Jean Renoir, mais aussi William Friedkin, Steven Spielberg et Ingmar Bergman, tous ces gens ne sont pas de grands réalisateurs, hein. On est d'accord? Ok. Parce que, en fait, tous ces gens, depuis les années 60, ont aussi produit des séries. Et puis il y a même aussi Clint Eastwood, Roger Vadim et Paul Verhoeven qui ont tourné des épisodes, tout comme Quentin Tarantino en filmera d'autres pour Les Experts et Urgence. Donc, je pense maintenant que c'est assez clair. Michael Mann, il a déjà travaillé pour la télévision, entre autres pour deux séries policières emblématiques. L'une est totalement oubliée de nos jours et elle a pour titre Police Story. Dans les années 70, c'était la série policière sans concession et réaliste. En fait, elle était produite par un ex-flic devenu romancier, Joseph Wambo. Bon, c'était un peu l'équivalent de notre Olivier Marchal à nous, si vous voulez. Chaque épisode plongeait donc dans la psychologie et la vie privée des policiers, et cette série en a initié plusieurs autres, dont une qu'on connaît bien, Sergent Anderson, Policewoman, avec Angie Dickinson. Donc, avoir écrit des épisodes de Police Story, c'était avoir des références de sérieux dans un CV. Et l'autre série pour laquelle Mann avait déjà travaillé, c'est Starsky & Hutch. Bah, une série bien connue sur un duo de flics qui, dans la VO, ne sont pas aussi rigolos qu'on pense. Et c'est ce qu'a confié Michael Mann à mon équipe à Los Angeles en 1994. Elle était venue lui poser mes questions, bah oui, parce que en cette époque pré-internet, il était difficile de faire des allers-retours Paris-États-Unis toutes les semaines. Donc c'est eux qui ont posé mes questions. Mon tout premier travail à la télévision, c'était sur une série qui s'appelait Starsky & Hutch. J'ai écrit les trois premiers épisodes, mais pas le pilote. Hein. C'est Bill Blinn qui a écrit le pilote. À l'époque, ce n'était pas très conventionnel. Bon, c'était une série à épisodes, bouclée, indépendant, ce qui est assez léger. Mais c'est quand même Bill Blinn qui l'a créé. Et les personnages étaient plus ou moins sous couverture, habillés de manière contemporaine, à la mode. Et il n'y avait jamais eu la télévision de flics qui ressemblait à ces deux-là. Maintenant, ça paraît un peu daté d'avoir des flics en jean et en basket. Mais à l'époque, les flics à la télé, ils avaient encore le style dragnet, hein, les cheveux courts et les costumes cravates. Et certaines histoires osaient des thèmes risqués. Rien d'étonnant donc que Mann ait été approché par Universal pour s'associer à Anthony Yerkovitz et son téléfilm Gold Coast. Parce qu'entre-temps, l'idée d'une série régulière dont le téléfilm unitaire aurait pu être le pilote avait bien progressé. Mann nous a raconté ce qui l'avait séduit dans le projet de Gold Coast qu'on lui a proposé. Après Forteresse Noire, je me demandais quoi réaliser. Et mon agent de l'époque m'a envoyé ce scénario pour un pilote de 90 minutes intitulé Gold Coast. Universal voulait savoir si j'étais intéressé pour produire une série télé à partir de ce scénario. Je n'avais pas l'intention de retourner à la télévision à l'époque. Mais je dis pourquoi pas, je l'ai lu. Et au final, je l'ai adoré. J'accepte de développer le pilote avec Anthony Yerkovic, le scénariste, et finalement, je me suis impliqué. J'ai trouvé ça très amusant. J'ai vérifié que le titre était disponible, et on a rebaptisé la série Miami Vice. Avec Michael Mann en showrunner sur le scénario de Anthony Yerkovic, on pouvait s'attendre à ce qu'il cumule aussi la fonction de réalisateur pour le pilote. Eh ben non, pas du tout. Parce qu'il passait de scénariste à réalisateur, il connaissait parfaitement les ficelles du métier de producteur exécutif. Michael Mann est resté à la tête du projet, et ça a été Thomas Carter qui a mis en scène le téléfilm Pilote, un réalisateur très efficace, qui avait déjà œuvré encore pour East Street Blues, décidément, pour des séries comme Fame, et que l'on retrouve aujourd'hui même à la réalisation d'épisodes de The Strain, de The Magis ou de Seal Team. Mann nous a confié son choix d'être producteur exécutif de la série et pas réalisateur. Mon rôle était très précis. Je devais être le producteur exécutif sur la série. Mais j'ai dit que je ne le ferais que si j'avais un contrôle créatif total sur tous les aspects de la série, de A à Z, de l'écriture à la livraison du pilote. Et tout ça en commençant avec le même pilote.
Donc, vous n'avez jamais réalisé un seul épisode ?
Donc, non, je n'ai jamais réalisé un seul épisode, pas un seul. Parce que je me suis rendu compte que, pour garder le contrôle global, c'est comme être le directeur général. Pour un long métrage, je choisis les lieux de tournage, je sélectionne le casting, je supervise l'écriture. Sur une série télé, celui qui fait tout ça, c'est le producteur exécutif, et pas le réalisateur. À la télévision, le réalisateur travaille avec un casting déjà existant et des lieux de tournage déjà sélectionnés. Et donc il tourne très vite, mais ce n'est pas lui qui a le contrôle global, et ce n'est pas lui qui permet de garder une cohérence d'un épisode à un autre. Au cinéma, c'est typiquement le rôle du réalisateur. Le scénario de Yerkovic nous entraîne donc au sein du département Vice de la police de Miami, qui lutte contre les crimes organisés, la prostitution, le trafic d'armes, mais surtout la drogue et son trafic particulièrement important à Miami. Pour ce faire, donc, les policiers vont infiltrer la pègre via des alias. Celui de Crockett, c'est Sonny Burnett. Celui de Tubbs, c'est Rico Cooper. Et le travail initial de Michael Mann est donc de trouver les bons interprètes pour le pilote de Miami Vice. Le premier, Sonny Crockett, un flic vétéran du Vietnam, séparé de sa femme et de son fils, Billy, et il vit sur un bateau à Miami avec un alligator, Elvis. Larry Wilcox, l'un des deux flics à moto de Chips, sera pressenti, tout comme Jeff Bridges, Nick Nolte et Mickey Rourke. Et c'est finalement Don Johnson, un acteur quasi inconnu, qui avait surtout joué dans un petit film de science-fiction d'après Harlan Ellison, Apocalypse 2024, qui décrochera le rôle. Et petit à petit, Don Johnson va devenir indissociable de son personnage, à tel point que, des années plus tard, Michael Mann nous parlera de cette identification entre l'acteur et le rôle. Et écoutez bien ce qu'il dit, c'est à décrypter. Si on voulait faire une sorte d'autopsie mentale de la série et du personnage, pour savoir où s'arrête Don Johnson et où commence Sonny Crockett, ça serait compliqué. Tout est mélangé. Chacun devient l'autre. Il y a une certaine flamboyance chez Crockett qui s'est retrouvée dans la vie de Don. Et Don avait une aisance en public qu'il a apportée au personnage. Ricardo Tubbs, à New York, lui, voit son frère assassiné. Il vient donc à Miami pour le venger. C'est Philip Michael Thomas qui va l'incarner. C'est un comédien qui a joué un peu partout, en guest dans pas mal de séries, comme donc le fameux sergent Anderson, dont je vous ai parlé tout à l'heure, puis Wonder Woman aussi, ou même Moving On, l'aventure est au bout de la route, qui avait pour héros deux routiers dans leur camion. Alors évidemment, ils sont entourés d'autres membres du Vice Squad, Trudy et Gina, Zito et Zvitek, qui sont un petit peu les pendants comiques de la série, et puis leur commandant, le lieutenant Rodriguez. Oui, j'ai bien dit Rodriguez. Non, j'ai pas fait l'erreur, vous allez voir. Mais ce qui va vraiment changer avec la conception de ce pilote, c'est l'importance de la ville de Miami. Et c'est crucial pour le développement du style de la série.
It was the northern banking capital of Latin America.
C'était un peu la banque de l'Amérique latine. C'est de l'argent sale, issu des cartels de la drogue.
Oligarchies in Latin America were depositing in Miami.
Les oligarchies d'Amérique latine déposaient leur argent à Miami. C'est une ville sauvage, très sauvage. Au départ, je pensais que le film Scarface de Brian De Palma était exagéré. Mais plus j'en ai appris sur Miami et plus j'ai compris que je me trompais et que Scarface était en dessous de la vérité. Au final, le but de Yerkovitch était de parler de cette ville et de ses flics. C'est donc Miami qui inspire à Michael Mann tout un visuel et toute une cinématographie très spécifique pour la série. Et donc, c'était pas du tout un gimmick, c'était pas du tout un gadget, c'était parfaitement cohérent. Écoutez ce que nous en a dit Michael Mann.
Miami, is Casablanca.
Miami, c'est Casablanca. Je me suis débarrassé de 96 à 97% de la réalité physique de la ville. On y trouve majoritairement des bâtiments en briques et pas d'architecture coloniale. J'ai décidé que les quartiers riches seraient postmodernes et que les quartiers pauvres seraient art déco. Et entre les deux, il n'y aurait plus rien. Je voulais qu'on ressente la chaleur du lieu. On a donc beaucoup travaillé les couleurs avec des pastels et des couleurs tertiaires assez vives. De même, Mann a insisté pour que les rues soient toujours arrosées avant qu'on y tourne, afin qu'elles paraissent luisantes et qu'elles resplendissent à la caméra. Et puis une autre spécificité que Mann souhaitait expérimenter et qui collait parfaitement avec le style de la série, c'était l'importance de la musique. J'avais toujours voulu faire une série policière avec une musique contemporaine. Ça me tenait à cœur, et encore aujourd'hui. Je voulais prendre toutes ces émotions, cette rage, cette frustration que peuvent ressentir les personnages et les mixer avec les meilleures musiques actuelles. Le but était de construire une situation proche du rêve. Le public a l'impression de rêver ce qui arrive au personnage. Il se retrouve complètement lié de manière émotionnelle et intellectuelle. Et c'est ce qui m'a motivé à faire du cinéma au départ. Et c'est ce que j'ai pu faire dans un cadre contemporain avec la première saison des Deux Flics à Miami. Et c'est ce qu'il fera donc dès ce pilote, en incluant des hits, des Rolling Stones, de Cyndi Lauper et surtout In the Air Tonight de Phil Collins, pour une virée nocturne dans Miami qui est devenue mémorable. Une des scènes les plus fameuses de la série. Et c'est là que nous revenons à NBC et à Brandon Tartikoff. Vous savez, le patron là, qui recherchait sa série policière matinée de pop musique, ces fameux MTV Cops. Bah, ça tombe bien. Le projet Gold Coast Miami Vice arrive. Il valide donc très vite le pilote de Miami Vice, qui aura coûté tout de même 4 millions de dollars, ce qui n'est pas rien, et confirme la saison entière pour la rentrée 1984, avec des épisodes au budget gigantesque pour l'époque de 1 300 000 dollars. En septembre 1984, la série est donc lancée avec le téléfilm, qui sera diffusé un dimanche soir et prendra tout le monde par surprise, critique et public. Tout le monde est enthousiasmé devant ces flics au style si branché. C'est vrai que ça détonne face à Arabesque. Si les autres épisodes sont diffusés dans leur case régulière du vendredi soir face à Falcon Crest, ils passent par contre un peu plus inaperçus, la série n'atteignant que la 46e place dans les audiences de la saison. Mais une quinzaine de nominations aux Emmy Awards et la couverture du magazine Time à la rentrée suivante changeront la donne. Immédiatement, la série va grimper à la 9e place. Son statut de méga-hit est donc confirmé. Miami Vice devient donc, en à peine deux saisons, un phénomène de mode et abandonne graduellement les histoires policières pour faire place à l'image, à un déroulement quasi existentialiste de la lutte de Crockett et Tubbs contre le trafic, la corruption et face à la mort. Pour symboliser tout cela, Mann va même très loin. Certains scénarios n'ont quasiment pas de fin et se terminent sur une séquence de violence dans laquelle même les forces de l'ordre ne remportent pas la victoire. Il va renforcer encore plus le style visuel qu'il a imposé dès le pilote. Il insistera sur la musique. 10 000 dollars par épisode sont débloqués pour les seuls droits des morceaux originaux. Pas des covers, hein, pas des morceaux chantés par d'autres. Non, non, les originaux. Non seulement la série devient un point fort pour les ventes de disques, et elle peut donc bénéficier des titres de ZZ Top, Divo, Tina Turner, Kate Bush ou Depeche Mode, mais des stars de la chanson viennent interpréter un personnage dans la série elle-même. Glenn Frey, par exemple, a été le premier à le faire dans un épisode qui porte le titre et repose entièrement sur sa chanson Smuggler Blues. On a donc mis plein de musique dans Miami Vice. On a parfois travaillé de façon originale, très opératique. Les chansons devenaient en quelque sorte le livret. Notamment dans un épisode en particulier, il n'y a pas de son métier, Smuggler Blues. Les paroles de la chanson précédaient les événements de la scène. C'est avec ce type de collision que la musique fonctionne le mieux, avec les émotions et le visuel. C'est une histoire très étrange, réalisée par Paul Michael Glaser.
C'est une très étrange histoire, c'est réalisé par Paul Michael Glaser.
Et oui, et ça a tellement bien fonctionné que Glenn Frey sera suivi au fil des épisodes par beaucoup d'autres qui donc passent de la chanson au petit écran. Phil Collins, qui reconnaîtra que la série a remis son tube In the Air Tonight sur le devant de la scène. Erta Kitt, Frank Zappa, Little Richard, Iggy Pop, Leonard Cohen, James Brown et Miles Davis apparaissent et tiennent des rôles dans la série. À tous ces tubes s'ajoute la musique originale de la série. Elle est composée par un Tchèque, Jan Hammer. Le thème de la série remportera d'ailleurs 2 Grammy Awards. Et le morceau qu'il va composer un tout petit peu plus tard, ce morceau-là, le thème de Crockett, sera aussi un tube international. L'autre ingrédient qui a aussi contribué au style de la série, ce sont les vêtements, essentiellement pour Crockett et Tubbs. Alors là, on est totalement dans les styles italiens, avec veste en soie sauvage, blouson en lin pour Crockett, costume en alpaga pour Tubbs, tenue de soirée avec ne pape, oui, même quand il poursuit des bandits, t-shirt, lit de vin, chemise rose ou mauve ou bleu de Prusse, mocassin blanc, cravate gris perle, alors surtout pas de chaussettes ni de ceinture au pantalon, et des accessoires. Lunettes Ray-Ban, Rolex en argent, ça c'est pour Sonny Crockett, en or, ça c'est pour Tubbs, solitaire 12 carats à l'oreille et une chaîne en or à maillon torsadé pour Tubbs. Vous voyez un peu le style, hein ? Et pour parfaire le côté bling-bling et le look classieux de la série, nos héros se déplacent dans une Ferrari Daytona noire. En fait, en réalité, c'était une Corvette customisée. Hein, bon. Mais enfin, bon, on va dire Ferrari Daytona noire. Puis une Testarossa blanche donnée sous l'impulsion d'Enzo Ferrari lui-même. Cette dernière a d'ailleurs récemment été mise aux enchères. Encore une fois, il ne s'agit pas que des gimmicks. Tous ces éléments sont légitimes parce que ils sont intégrés au sens de l'histoire. À Miami, dans les années 80, si vous étiez sous couverture et que vous vouliez passer pour un gros trafiquant de drogue, vous deviez en avoir le style de vie. Ça veut dire qu'il vous fallait des yachts à 4 millions de dollars, des Ferrari ou des Lamborghini, porter des Rolex à 14 000 dollars, des gros bijoux. Et c'est encore le cas aujourd'hui. C'est exactement ce que Crockett et Tubbs doivent avoir. C'est un régime de consommation opulent et assez écœurant.
Nauseatingly overly rich diet of the cutting edge of fashionable.
C'est ce qu'il fallait aux personnages pour que leur couverture tienne dans cette réalité. Et cela a coïncidé avec une époque où beaucoup de grandes marques s'essayaient à de nouveaux designs. Donc tous les ans, on faisait le voyage chez Armani en Italie, et l'un de nos costumiers allait en Europe avant le début de chaque saison pour décider de ce que les personnages allaient porter et quel serait le look de Crockett. Devant la caméra, Miami Vice réunit aussi des vedettes comme Bruce Willis, avant qu'il ne devienne célèbre, Ariel Dombal, William Ross, Gary Cole, Stanley Tucci, Wesley Snipes, Julia Roberts, Dean Stockwell, et aussi des personnages politiques, dont l'apparition a créé ainsi le buzz. Ça a été le cas avec G. Gordon Liddy, l'un des principaux conspirateurs responsables du cambriolage et des micros du Watergate, ni plus ni moins, et qui se refaisait carrément une deuxième vie en jouant dans Miami Vice. Et derrière la caméra aussi, si Mann n'a pas réalisé d'épisode, il a confié cette tâche à des metteurs en scène solides et innovants. John Nicolea, Richard Colla, George L. Moxey, John Stafford Brown, Aaron Lipstadt. Notre attitude était de faire la série comme on le voulait, jusqu'à ce que quelqu'un se rende compte de tout ça et nous dise d'arrêter. En attendant, on continuait. On a vraiment produit la série sans interférence extérieure. Des cinéastes comme Léon Chazo, Robert Cohen, Abel Ferrara, ils ont réalisé des épisodes. C'est pourquoi je suis vraiment très fier de ces deux premières saisons. Mais Michael Mann ne délaisse pas pour autant dans la série ses personnages. Le lieutenant Rodriguez, vous vous souvenez, je vous en avais parlé au début, eh bien lui, il se fait tuer dans le quatrième épisode de la série. Et il sera remplacé par le lieutenant Castillo, incarné par Edward James Olmos, un comédien extrêmement zen et charismatique que l'on retrouvera par la suite en commandant Adama de Battlestar Galactica. Quand on lui parle du casting, Michael Mann revient souvent sur cet acteur et ce personnage, visiblement un personnage crucial pour lui. Edward James Olmos en particulier, son personnage était très important pour moi. C'était cette sorte d'archevêque moral de la ville. Il touchait à des thèmes comme le bouddhisme. Il avait peut-être été à la CIA, passé du temps en Asie du Sud-Est. Il avait une vision très précise de ce qu'il pensait être juste. Il avait un système de valeurs qui lui était propre. Comme un jugement doit être basé sur le résultat des actions des individus et pas sur leurs intentions. Et c'est ce qui était sans doute ma réponse à cette génération narcissique qui apparaissait à l'époque. Avec le mouvement disco des années 70-80, par
exemple.
J'ai toujours préféré une approche plus rock and roll existentielle de la vie. Et le personnage d'Edward personnifiait cette vision. Et profitant de la hype, la série n'a pas hésité, en opposition avec la luminosité du lieu et de la musique pop, à se lancer dans des trames portant sur la pédopornographie, l'homophobie, la guerre de la drogue, les soutiens apportés aux dictateurs en Amérique du Sud, bref, des sujets quand même un peu lourds. En saison 2, portée par l'incroyable succès de la série, Don Johnson souhaite que son contrat soit renégocié. Il parvient à trouver un accord avant que son personnage ne soit purement et simplement remplacé par un autre. On avait prévu que l'acteur Mark Hammond le remplace. Arrive la saison 3 de Miami Vice, Michael Mann se concentre à la fois sur son prochain film, Le Sixième Sens, Manhunter, mais aussi sur une autre série, Crime Story, qui, elle, se déroule dans les années 50, avec toujours autant de panache, de style et une musique incroyable. Sur Miami Vice, pendant ce temps-là, C'est Dick Wolf, un des scénaristes attitrés de la série, et qui avait précédemment travaillé sur East Street Blues aussi, qui prend la relève. Dick Wolf, quelques années plus tard, va devenir un grand mogul de la télévision. C'est lui qui a créé de très nombreuses séries, par exemple la franchise des Law & Order, qu'on connaît en France comme New York District, New York Unité Spéciale, New York Section Criminelle, et puis maintenant la franchise des Chicago, Chicago Fire, Chicago Med, Chicago Law, Chicago... enfin voilà. Je vais pas vous le faire, mais maintenant, la maison de production de Dick Wolf, c'est les logos en fin de série dans lesquels on entend un loup hurler à la lune. Sous la direction de Dick Wolf, la série évolue vers d'autres sujets importants, comme la peine de mort, et elle s'embarque dans un style beaucoup plus sombre, qui se reflète dans les décors et dans les costumes. Cette orientation, cependant, ne va pas perdurer, parce qu'elle ne plaira pas trop aux gens. Ils étaient tellement habitués au côté lumineux et bling-bling de Miami Vice que là, d'aller vers un côté plus noir et plus sombre, ça ne leur plaît pas. Dans la saison suivante, Crockett va tomber amoureux. Il va même se marier avec Kathleen, une chanteuse qu'il est chargé de protéger. Kathleen est incarnée par une vraie chanteuse, Sheena Easton. Mais Kathleen, elle, va se faire tuer, et suite à ce choc, Sonny va perdre la mémoire et se prendre réellement pour son alias, Burnett. Il va l'assumer pendant plusieurs épisodes, allant jusqu'à même tirer sur son ancien partenaire, Tubbs. En 1989, la saison 5 de la série voit se confirmer la baisse d'audience déjà amorcée les saisons précédentes. Comme toutes les modes, Miami Vice n'est plus à la mode. Et sa fin est, il faut le reconnaître, un peu sordide. La chaîne NBC saute purement et simplement 4 épisodes. Elle va directement au téléfilm de clôture diffusé en mai 1989. Mais quand même, l'influence de Miami Vice ne s'arrêtera pas pour autant. Avec elle, les séries ont appris à sortir de leur carcan visuel, à adopter des styles plus sophistiqués. Dans la foulée, d'autres séries ont tenté de copier le style avec un look cool et des passages très vidéoclips sur des morceaux pop. Cela a été le cas avec Crime Story de Michael Mann, dont je vous ai parlé, mais aussi avec Stingray, avec Nick Mancuso, du producteur Stephen G. Cannell, de la fulgurante autre création de Anthony Yerkovic qui s'appelait Private Eye, cette dernière qui se passait dans les années 50 et coûtait littéralement un bras à produire, avec des épisodes réalisés sous pseudo par David Lynch, ben oui, ni plus ni moins. Et puis, d'une manière générale, cela permettait d'inclure des morceaux musicaux dans une série. Ça s'est généralisé depuis Miami Vice, et maintenant, difficile de regarder un épisode de Vampire de Hayes ou de Grey's Anatomy sans entendre 3-4 morceaux musicaux. Ah oui, une dernière chose. Miami Vice a été la première série télé en stéréo. Sans rire, en stéréo. Avec toutes les chansons de sa bande-son, bah, ça paraît complètement évident, hein. Mais à l'époque, il n'était pas besoin de produire des séries en stéréo parce que la bande-son n'en valait pas la peine. Mais McElmann est juste tombé au moment où il fallait. On était la première série en stéréo. Je me rappelle avoir passé un coup de fil. Je viens d'apprendre que NBC peut désormais diffuser en stéréo. Vous étiez au courant? Ah non, personne ne le savait. Alors pourquoi on ne ferait pas la série en stéréo? Et du coup, on a tourné en stéréo. Deux flics à Miami était sans doute le reflet de son époque, de sa mode vestimentaire, de sa mode musicale, de son style art déco, elle perdure aussi par toutes ses richesses. Parce qu'elle a été tournée en 35 mm, comme les autres séries de l'époque, elle a été récemment restaurée en haute définition, d'après les négatifs. Elle est dorénavant disponible en Blu-ray avec une image absolument somptueuse. Enfin, pendant quelques années, une attraction Miami Vice en live s'est déroulée au parc Universal de Los Angeles. Il y avait des hors-bords, des explosions et même un hélicoptère qui surgissait et s'écrasait devant les spectateurs. Je sais, j'en ai fait partie. Mann n'a jamais oublié la série, au point de la faire revivre en 2006 dans un film avec Colin Farrell et Jamie Foxx. C'est d'ailleurs ce dernier qui, pendant qu'il jouait dans le Ali avec Michael Mann, lui suggéra de faire revivre les deux flics à Miami. Et même actuellement, il est question d'un reboot. Oui, je sais, les reboots, ça commence à faire, mais bon, voilà. Il est question d'un reboot pour la même chaîne qui a donné naissance à Miami Vice à l'époque, la NBC, et c'est sous la direction de Vin Diesel et de Chris Morgan. La semaine prochaine, histoire de vous préparer la saison finale, je vous parlerai de Game of Thrones, et notre podcast est à retrouver sur les plateformes Deezer, Podcast Addict et Apple.